Parlons de l'aide médicale à mourir. Hier, la ministre Danielle McCann a annoncé une journée de consultation publique, peut-être deux si plusieurs personnes se manifestent. Mais c'est vrai que ça demeure extrêmement préoccupant parce que, on le dit depuis le début, je pense que personne ne l'a vu venir. Dans la mesure où est-ce que des gens qui ont une maladie physique, dégénérative, dont on connaît l'issue, peuvent ne pas attendre d'être en fin de vie complète pour demander l'aide médicale à mourir. La Cour a dit oui à deux personnes qui ont porté le dossier et donnait donc une période au gouvernement pour justement ajuster la loi. Et là, tu disais un peu, là. On avait un débat sur les gens qui souffrent d'Alzheimer, à quel moment on pourrait obtenir leur volonté. Quand tu es en fin de vie, bien là, ça n'a pas de sens parce que tu n'es pas en mesure de donner un consentement. Et là, arrive les gens qui souffrent de maladies mentales. Alors, tu dis, mais comment tu vas faire ça? Sur quelle base, sur quels critères? Le Collège des médecins est interpellé. Le Collège se vire de bord, puis interpelle l'Association des psychiatres. Je vais en parler avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre réaction, vous, à ce débat là, qui nous est apparu comme ça dans le décor?
Mais premièrement, on peut pas être contre le principe en soi. On reconnaît une autonomie à une catégorie de personnes qui peuvent être aussi souffrantes que ceux qui ont une souffrance physique. Donc, ça aurait été difficile de continuer une discrimination en disant, mais si votre souffrance est plus morale, plus psychiatrique que physique, vous auriez pas droit à ça. Donc, le principe, on peut difficilement être contre. On reconnaît une autonomie à des gens qui seraient en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Donc, sur le principe, oui. Mais en pratique, ça va causer des gros problèmes. En pratique, c'est qu'une maladie physique, la médecine est plus évoluée. On est capable de dire à quelqu'un, demain matin, vous irez pas mieux. Le lendemain, vous risquez même d'être pire. Et là, la personne peut prendre un choix rationnel. Est-ce que moi, j'en ai assez de cette vie-là de souffrir comme ça? Ou quand je vais avoir atteint un certain stade, je vais vouloir mourir? Et pour en avoir vu beaucoup des gens qui avaient des idées de mourir, c'est pas tant la souffrance. Il y a des gens très souffrants qui vont se dire, moi, je veux continuer à me battre. C'est quand on perd l'espoir. À partir du moment où on perd l'espoir que ça va aller mieux, c'est là que les idées suicidaires arrivent et les idées de mourir arrivent.
OK, mais prenons un cas, là, et en fait, l'espèce d'exemple type qu'on sert depuis le début de ce débat, là. Un schizophrène. Vous avez vu des schizophrènes qui, selon vous, là, est en mesure de décider que l'aide médicale à mourir était l'option pour eux?
Non, justement. Et j'en ai vu, moi, dans la vingtaine qui me l'ont demandé. Et c'est pour ça que là, ça n'a pas de bon sens, parce que la maladie psychiatrique amène, dans certains cas, d'emblée une idée qu'on en a plus d'espoir. La maladie entraîne cette vision noire de la vie qui fait que tout est fini, ça ne marchera plus. L'exemple extrême, c'est la peine d'amour. On apprend quelque chose 24 heures après, on reçoit des gens à l'urgence qui disent « Je peux pas vivre sans cette personne-là, j'ai plus d'espoir, ma vie est finie, je vais mourir. » C'est qu'on voit que la maladie psychiatrique atteint directement ça, la vision du futur et l'espoir qu'on a dans le futur. Et la définition d'une maladie incurable aussi, ça va causer un problème, parce que théoriquement, la schizophrénie, c'est incurable. On peut soulager les symptômes, on peut redonner une vie à des gens sans symptômes et sans, maintenant presque sans effets secondaires, mais théoriquement, ça reste une maladie incurable. Fait que si c'est ça notre critère, on vient d'inclure encore là bien des choses. Juste pour donner un exemple, comment ça peut être complexe, quelqu'un qui a un problème d'alcoolisme chronique, quand est-ce que ça devient incurable, puis est-ce qu'on va rentrer ça là-dedans aussi? Moi, j'ai déjà vu des gens extrêmement souffrants qui voulaient mourir pendant des années suite à une dépression, puis après quelques années, la dépression se règle. Une fois que c'est réglé, ils peuvent même plus se remettre dans la position où il était, comment j'ai pu penser ça, vouloir mourir pendant tout ce temps-là. Donc, la maladie psychiatrique, ça va être extrêmement complexe de dire que quelqu'un a un jugement libre et éclairé quand il va donner un consentement à mourir.
OK, mais selon votre expérience, là, pensez-vous, parce que là, votre association a été mandatée pour faire des recommandations, il y a des groupes de travail. Autrement dit, est-ce que c'est faisable d'avoir des critères assez précis, assez objectifs pour que ça s'applique dans ces cas-là?
Ça pourrait parce que il faut se souvenir aussi que la maladie psychiatrique, souvent, c'est associé à d'autres choses. On peut avoir des problèmes neurologiques, puis développer une dépression sur un problème neurologique. On peut avoir d'autres problèmes aussi dans la vie, et on pense souvent à la maladie mentale, mais souvent, c'est combiné à plein d'autres choses. Des douleurs physiques auxquelles va s'ajouter une dépression. Et l'autre chose où il faut faire attention, c'est de pas verser dans l'autre côté non plus, puis être paternaliste et dire aux gens, écoutez, nous, on le sait que la vie vaut la peine d'être vécue. Votre point de vue, parce que vous êtes malade, vous vous trompez. Donc, ça devient délicat aussi. J'exclus pas qu'on pourrait imaginer des cas où quelqu'un pourrait donner un consentement libre et éclairé, tout à fait éclairé face à une maladie psychiatrique, mais j'en ai pas vu beaucoup.
qui avait la capacité de prendre ce genre de décision.
Exactement, exactement. Où la maladie jouait pas un rôle, la maladie en soi jouait pas un rôle dans la perception de la réalité et dans le désespoir que les gens vivent. Ce qu'on va retrouver dans les maladies physiques, où les gens peuvent avoir toute leur tête, ils vont savoir exactement quelles vont être leurs limitations, quels vont être les effets secondaires de la médication, c'est quoi qui les attend. Mais en psychiatrie, avant de dire que quelque chose est incurable, premièrement, c'est extrêmement difficile. Et deuxièmement, c'est très rare que la maladie elle-même affecte pas cette vision-là de la vie.
Mais tu sais, je prends l'exemple là, de quelqu'un qui est bipolaire, qui, mettons, refuse les traitements, qui a ses hauts et ses bas. À quel moment il va donner un consentement quand il est bas, puis après ça, il va être haut, puis il va changer d'idée, comment?
Mais c'est exactement ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on prenne la vie de la personne pendant qu'elle est en phase aiguë. Parce que c'est clair que la personne est honnête, elle le vit comme ça, elle veut mourir parce que la vie est souffrante, et la personne n'a pas le recul suffisant pour savoir que oui, ça peut se guérir, puis oui, on peut revenir, puis oui, on peut être mieux, puis dans un an, elle ne pensera pas comme ça. Faudrait pas prendre des décisions comme ça là, sur des épisodes aigus de maladie, ça c'est certain.
Merci, Dr Chamberlain.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Dr Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre, maintenant avec nous. Diane Francoeur, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui publie ce matin une lettre ouverte, justement, pour mettre en lumière, disons, le côté expéditif présenté par la ministre pour, entre guillemets, régler l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Docteur Francoeur, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, je vous pose la même question qu'au docteur Chamberlain sur le principe même de permettre à des gens qui ont des problèmes de santé mentale d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Êtes-vous d'accord ou contre?
Je pense que Dr Chamberlain a fait une très belle explication. On ne peut pas être contre. Évidemment, notre inquiétude, nous, c'est vraiment la précipitation qui fait en sorte est-ce qu'on sera vraiment capable de bien définir rapidement des critères qui vont être réalistes et qui vont permettre justement de servir la mission première, de donner le choix aux gens, puis de comment est-ce qu'on va surtout dans les enjeux de santé mentale, ça va être quand le moment de faire la vraie décision et est-ce que ça va être représentatif de la souffrance vraiment de la personne. Alors c'est sûr qu'on est contre, quand on est d'accord, mais quand on regarde, par exemple, dans les pays comme la Belgique qui ont eu cette ouverture, ça représente à peu près 1 à 2 % des demandes qui sont en lien avec la santé mentale. Mais vous savez, notre inquiétude est-ce qu'on va avoir suffisamment de temps pour consulter la population? Ça appartient pas aux médecins, cette décision-là. Nous, on est là pour soigner les gens, les guider, les orienter, les soulager. Mais la décision de ce qu'on doit offrir ou pas et jusqu'où on doit aller, ça appartient à la population. Ce sont eux qu'on doit entendre.
OK, mais la ministre dit que dans le jugement, et c'est vrai, là, il y a une date qui est imposée par le juge dans les 6 mois, donc ça nous amène à la mi-mars. Il faut que les gouvernements, et là je parle de Québec, mais il y a Ottawa aussi, qui en fait t'acceptent ou tu contestes le jugement. Elle dit en d'autres termes, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller vite.
Oui, mais écoutez, je pense qu'on est capable de demander un délai. Ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait un délai qui serait accordé pour une cause aussi importante. Mais je veux dire, est-ce que le fait de j'ai pas le choix d'accepter, c'est que je suis obligé d'accepter n'importe quoi, toute une autre décision. Je pense qu'on avait une certaine urgence, effectivement, par rapport aux fameux critères de fin de vie. Et ça, nous, on est content d'avoir une ouverture par rapport à justement, surtout dans les maladies dégénératives. On le sait que souvent, la fin de vie, puis vous savez, on n'a pas de boule de cristal. On fait toujours des évaluations au meilleur de nos connaissances et de nos compétences et de notre expérience. Mais on peut se tromper aussi. Les médecins ne sont pas jamais toujours 100% exact lorsqu'ils font une prédiction sur la fin de vie possible en lien avec une maladie. Mais en ce qui concerne la santé mentale, il y a tellement de fluctuations, comme disait Dr Chamberlain, et c'est ça qui nous inquiète. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver des critères? Alors, il faut prendre le temps d'écouter les gens, de travailler avec les experts. On était très heureux que le collège et les médecins psychiatres travaillent ensemble pour essayer de définir, mais prenons notre temps. Prenons le temps avant d'ouvrir sur tout ce chantier qui est la santé mentale, parce que s'il y a un domaine en médecine où on ne rencontre pas les attentes de la population, c'est la santé mentale. Vous savez, vous en parlez régulièrement à votre émission. Les gens sont incapables d'avoir des soins dans les délais requis. Alors, commençons aussi par améliorer nos services. Le choix de l'aide médicale à mourir ne doit pas être un choix qui se fait par dépit, par désespoir, parce qu'on est incapable d'avoir des soins qui sont adéquats. Il y avait une dame qui parlait pas de santé mentale, qui parlait de santé physique, avec une sclérose en plaques, hier, qui a écrit une très belle lettre dans le journal qui nous trahit sa détresse, qu'elle pense à l'aide médicale à mourir parce qu'elle est tannée d'avoir pas toujours les soins qu'elle a besoin, puis d'être toujours obligée de quémander de l'aide. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire.
Mais c'est comme vous parlez de maladies physiques, c'est comme les soins palliatifs. Il y a des gens qui sont pas au courant ou qui n'ont pas accès à des soins palliatifs et qui vont se tourner vers l'aide médicale à mourir. C'est un peu vrai ça aussi. Alors que dans le cas de la maladie physique, on le sait, le diagnostic est assez précis. Et on sait comment ça va se terminer. Et là, c'est au patient de décider s'il veut devancer ou attendre donc la mort fasse son œuvre. Mais dans le cas de la maladie mentale, moi, j'ai hâte de voir comment on va établir les critères.
Ben nous, on a très hâte, comme vous. Et je vous dirais, c'était le sujet numéro un de discussion hier au bureau, puis pas juste entre les médecins. À peu près tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a des problèmes de santé mentale. C'est facile de voir la détresse, ou si vous marchez au centre-ville, vous allez en rencontrer ou à tous les coins de rue. Là. Et comment est-ce qu'on va réussir à vraiment voir avec cette clientèle-là qui vit dans des conditions difficiles, surtout lorsqu'ils prennent pas leurs médicaments, et le psychiatre qui va devoir se mettre sur les épaules la décision d'être apte ou pas, et combien de temps cette décision-là va être bonne. Je suis apte aujourd'hui, mais est-ce que je le serai encore dans 3 mois? Je pense que Dr Chamberlain a bien démontré toute la complexité de la santé mentale. Donc, nous, notre message était prenons notre temps, écoutons la population, puis demandons. Je ne crois pas qu'on devrait se dépêcher de régler quelque chose d'aussi important rapidement juste pour entrer dans un délai. Demandons une prolongation. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le jugement qui a été fait, mais c'est juste que c'est pas un petit enjeu et le choix doit être fait parce que c'est le choix. Et ça doit être un choix et non une finalité parce qu'on n'a pas les soins requis ou on trouve ça trop difficile parce qu'on n'est pas capable d'être vu quand on va pas bien ou d'être pris en charge. Il y a toute cette complexité-là, un peu comme dans les soins palliatifs. On ne doit pas choisir l'aide médicale à mourir parce qu'on n'a pas bien réussi à soulager les patients. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire.
Merci beaucoup, Dr. Francoeur. Bonne journée. Diane Francoeur est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Si on a pris du temps, là, je ne dis pas de prendre 10 ans, là, mais si on a pris du temps pour établir les principes de l'aide médicale à mourir et dégager un consensus, je n'ai pas dit l'unanimité, j'ai dit un consensus, même entre les partis politiques, on peut-tu prendre du temps pour regarder ça? C'est encore plus compliqué. Sur quelle base, sur quels critères? Puis on peut-tu prendre plus qu'une journée pour consulter le monde? Quand même qu'on prendrait une semaine. Tu sais, y a-tu une urgence à ce point-là? Malgré le jugement, il y a moyen de prendre le temps de faire les affaires correctement pour qu'au moins on s'entende collectivement sur les principes qui doivent entourer l'aide médicale à mourir pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Puis là, le débat sur l'Alzheimer, la démence, va continuer de se poser. Pas simple, ces questions-là. 7h42.